7h36 et cette revue de presse internationale, elle est avec vous, Héloïse Roger, bonjour.
Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous.
À la une ce matin, on évoque ces inondations très importantes qui frappent le Kazakhstan.
C'est tout le nord, l'ouest, mais aussi le centre du pays qui est touché par ces intempéries depuis la semaine dernière. Plus de 70 000 personnes ont déjà été évacuées en raison de ces inondations. Près de 15 000 Kazakhs se sont retrouvés dans les centres d'hébergement temporaires. La moitié sont des enfants, des milliers d'habitants ont été pris au piège par les eaux. Les opérations de sauvetage ont été très difficiles, rapporte Aki Press. Certains ont été évacués par les toits. Des treuils ont été utilisés. Le président Kassym Jomart Tokayev s'est adressé au peuple kazakh en fin de semaine.
Nous devons tirer tous les leçons de ces massives tempêtes.
Nous devons tirer toutes les leçons de ces inondations de grande ampleur, a-t-il déclaré. Ils concèdent des lacunes dans l'organisation des mesures de prévention des catastrophes naturelles, mais aussi de manque de main-d'œuvre dans ce domaine. Le président kazakh pointe aussi une attitude dédaigneuse à l'égard de la nature. Le gouvernement et les autorités locales doivent se coordonner pour lutter contre les inondations et assurer le maintien de l'ordre public. Kassym Jomart Tokayev, qui a aussi précisé que c'est la plus grande catastrophe de par l'ampleur et les conséquences depuis plus de 80 ans dans le pays. Dans un article de Nour, on apprend que 10 régions sont encore en état d'urgence. Hier, le Premier ministre Olaj Betkhdanov a organisé une réunion avec des représentants des régions impactées pour faire le point. Et les chiffres sont impressionnants. Plus de 12 000 personnes sont à pied d'œuvre. Un millier de pompes à eau et autres équipements pour permettre l'évacuation de l'eau et des habitants sont réquisitionnés. Plus de 60 000 animaux ont aussi été transférés sur d'autres terres. Le Premier ministre a aussi demandé aux responsables régionaux d'empêcher les hausses des prix alimentaires sur leur territoire, car déjà les inondations ont un impact sur les cultures, les paiements et les indemnisations des agriculteurs. Et ce n'est pas fini, le pays est encore sous la menace d'une tempête et de fortes pluies pour aujourd'hui.
Autre sujet, manifestation en Espagne pour la santé publique.
À l'occasion de la Journée mondiale de la santé, hier, des milliers de personnes en Andalousie ont manifesté pour dénoncer le démantèlement de leur système de santé. Et ce n'est pas la première manifestation de ce type dans la région, mais la quatrième. 6 mois après la précédente, El País rapporte la lassitude présente au cœur des cortèges. Les Andalous se plaignent d'une attente bien trop longue, ne serait-ce que pour se rendre chez un médecin généraliste. Il faut en moyenne 20 jours pour avoir un rendez-vous, précise le journal. Dans le Diario de Sevilla, on retrouve aussi un témoignage illustrant ces difficultés d'accès à la santé. Maria Baena, habitante de Gilena, une commune au sud de Cordoue, explique que son mari est allé faire une prise de sang et qu'il a fallu attendre 8 à 10 jours pour avoir les résultats. Et rien que pour faire ce bilan sanguin à l'hôpital dont ils dépendent, il peut y avoir jusqu'à 18 mois d'attente. Dans les rues andalouses, hier, il y avait aussi de la colère face à l'annonce de nouveaux contrats avec le secteur privé de la santé pour réduire les listes d'attente. Écoutez Carlos Aristou, il est secrétaire général du syndicat CCO de Séville.
No hay ni un ciudadano ni una ciudadana de Andalucía que no perciba el intento intencionado del gobierno de la Junta de Andalucía de proseguir el estado de deterioro de nuestra sanidad pública.
Il n'y a pas un seul citoyen d'Andalousie qui ne perçoive pas la tentative de continuer la détérioration de notre système de santé publique afin d'en faire une entreprise privée. Nous ne cesserons d'occuper les rues tant que nous n'aurons pas la sécurité de pouvoir accéder à des soins de santé publique de qualité. En février dernier, le gouvernement régional a approuvé un nouveau plan d'urgence, 283 millions d'euros, dont près de la moitié alloués au secteur privé. Face à cette situation, le secrétaire général du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol de Cordoue, Rafi Crespin, s'est confié au journal El Día de Córdoba. Le détournement de postes publics vers le secteur privé est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, a-t-il déclaré, en dénonçant la transformation des patients en clients privés.
Et pour finir, Héloïse, vous nous parlez d'un homme qui a parcouru toute l'Afrique en courant.
Il s'appelle Russell Cook, il a 27 ans, il est originaire de Worthing dans le West Sussex. La BBC nous fait le récit de l'aventure de ce jeune homme. Il s'est lancé ce défi défi colossal après avoir eu des problèmes de santé mentale et d'addiction aux jeux et à l'alcool. Il est parti de chez lui en février 2023, départ de l'Afrique du Sud, pour remonter jusqu'en Tunisie en effectuant 360 marathons. Il a parcouru 16 pays et non sans but. Il a collecté plus de 700 000 livres sterling pour des œuvres caritatives. Mais ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Pendant son périple, il a été victime avec son équipe d'un vol à main armée en Angola, de douleurs au dos qui se sont aussi fait sentir. Au 200e jour, Russell Cook a été contraint de ralentir le rythme. Il s'est aussi confronté à un problème de visa en Algérie, mais l'engouement auprès du jeune Britannique était tel que l'ambassade d'Algérie au Royaume-Uni a accéléré les démarches pour son visa. Il a pu reprendre la route, dernière ligne droite avant l'arrivée en Tunisie hier, après 352 jours de course.
Belle course, merci beaucoup Héloïse pour cette revue de presse internationale. La vôtre, elle est à retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr, et sur l'application Radio France, et à suivre analyse du nouvel ordre géopolitique mondial avec l'essayiste Jean-François Colosimo.